invité de la rédaction.
Pierre Ellenbach.
Du 7 au 10 mars à Strasbourg aura lieu des rencontres internationales entre différents experts internationaux autour de la question société inclusive et avancée en âge, quel modèle pour demain ? Et des conférences autour des impacts de la pandémie du Covid sur les droits fondamentaux des personnes âgées. Un événement organisé par REACTIS, le réseau d'études internationales sur l'âge, la citoyenneté et l'intégration socio-économique. Pour nous en parler, Jean-Philippe Viriot-Durandal, vice-président de REACTIS et professeur de sociologie à l'Université de Lorraine.
Le 7, la France sera marquée par des mouvements sociaux importants autour de la retraite et autour de son financement. Mais en fait, cela révèle des transitions démographiques fondamentales à travers le vieillissement de la génération du baby boom qui a incarné la jeunesse et qui aujourd'hui passe à la retraite, puis va d'ici 2 ans pour le premier baby boomer passer le cap des 80 ans, c'est-à-dire que les baby boomers vont commencer à devenir des octogénaires. Donc les transitions démographiques renvoie à la fois à la question des financements des retraites, mais aussi à la question de du financement du cinquième risque, du risque de la perte d'autonomie, de la construction de réponses véritablement adaptées dans les territoires, à travers les transports, à travers la mise à disposition de services médicaux opérationnels, et puis aussi la lutte contre la maltraitance. On l'a vu à travers le scandale Orpea et les fossoyeurs. Il existe une maltraitance en France à destination des personnes âgées. Et puis enfin, la question aussi de la fin de vie et de l'accompagnement de la fin de vie. L'ensemble de ces dossiers-là sont actuellement sur le bureau des différents ministres et nous allons, dans les années qui viennent, devoir prendre des décisions importantes qui sont totalement ancrées dans ces transitions démographiques qui sont devant nous.
On a aussi parfois l'impression que la France et les Français ont un rapport parfois ambivalent avec leurs aînés. Il y a aussi un modèle peut-être à repenser de se dire que le grand âge, ce n'est pas forcément un problème.
Alors, bien sûr, pendant très longtemps, le grand âge a été considéré comme un fardeau, comme une difficulté, comme un problème. Alors, il existe des problèmes, il existe aussi des solutions. Et la question, c'est comment, à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale, puisque ces tendances ne sont pas propres à la France, on va reconstruire des modèles de cohésion entre les différentes générations. Comment on va poser un certain nombre de constats aussi sur les limites du système actuel et sur la manière dont on peut aussi repenser à la fois les financements, mais aussi le temps passé avec des parents âgés, la manière dont on peut aussi soutenir les personnes qui sont dans une relation d'aide avec leurs parents âgés, puisque la question des aidants est aussi assez cruciale aujourd'hui, où le nombre de personnes de 80 ans et plus augmente. Nous avons deux revers, en fait, dans ce que nous constatons dans nos études. C'est effectivement parfois des tendances à la discrimination par l'âge, ce qu'on appelle l'âgisme, à des phénomènes d'exclusion des personnes âgées, mais aussi, dans bon nombre de cas, des solidarités actives, qu'elles soient au niveau de l'État ou au niveau des actions bénévoles. Et on va révéler un certain nombre de résultats préliminaires sur une grande enquête sur 20 pays, qui sera accessible aussi directement par visioconférence le 7, autour précisément de cette question, c'est-à-dire comment les sociétés dans des pays sous 4 continents ont mis en place des politiques publiques et ont tenté d'accompagner cette période particulière qui menaçait l'ensemble de la population, mais qui a considérablement atteint les personnes les plus âgées. Comment ces mobilisations ont eu lieu et en quoi on peut constater dans un nombre de pays des enfreintes aux droits fondamentaux à la santé, aux droits à la mobilité, aux droits à l'expression et à la décision et au consentement. Voilà, c'est ce qu'on va tenter de mettre en avant avec ces résultats préliminaires de cette grande enquête qui s'appelle RITPA, Recherche internationale sur les droits des personnes âgées en période Covid.
Faut-il aborder la question de la fin de vie ?
Cette question, elle sera abordée dans une session autour de la livraison d'un numéro spécial des cahiers francophones de soins palliatifs avec des experts de pays différents, puisque, on le sait, la Suisse et la Belgique, par exemple, n'ont pas le même rapport à la fin de vie et à l'accompagnement de la fin de vie que la France. Notre objectif est, sans préjugés et dans une écoute respectueuse et en profondeur, d'examiner les termes du débat avec des chercheurs et puis aussi en lien avec des acteurs de la société civile qui travaillent sur ces questions. Nous ne pourrons pas faire l'impasse des questions qui nous sont posées puisqu'elles sont sur la table du Parlement et du gouvernement. Ce que nous souhaitons, nous, c'est que les chercheurs qui travaillent sur ces questions depuis des années et des décennies soient entendus, que les conclusions de leurs recherches soient aussi mises au débat pour pouvoir ensuite prendre une décision.
Est-ce important pour vous d'organiser ce type de rencontre entre chercheurs?
Ce que nous défendons au sein du Réactis et de la chaire internationale Société inclusive et avancée en âge, c'est une ouverture entre les chercheurs en sciences humaines et sociales et puis les acteurs de la société civile qui représentent à la fois les professionnels mais aussi les citoyens, les personnes âgées. Donc on est en lien très régulier et très permanent, mais nous sommes vigilants à ne pas faire de la science pour la science sans l'articuler aussi avec les questionnements des acteurs de terrain, des services de première ligne. C'est vraiment une des convictions que nous avons depuis la création du Réactis en 2006 et depuis la création plus récente de la chaire l'année dernière. Il est difficile d'avancer sur les questions de société sans avoir un lien assez organique avec les acteurs de terrain et leurs représentants. Donc effectivement, lors de ces rencontres, nous allons mettre en avant ce dialogue entre les chercheurs internationaux en sciences humaines et sociales qui travaillent sur le vieillissement et puis les professionnels, les élus, les décideurs publics et surtout les retraités, les personnes âgées et leurs représentants.
Vous avez parlé tout à l'heure du Canada. Pourquoi en fait ces pays sont en avance par rapport à la France ? Sur ce sujet ?
Alors, ils ne sont peut-être pas en avance dans tout. Sur certains sujets, comme la lutte contre la maltraitance, les plans de lutte contre la maltraitance ont été mis en place et ont été dotés de moyens avant la France. D'où l'intérêt du dialogue, parce que les politiques publiques qui ont été mises en place ont été évaluées. Et donc, on peut tirer des expériences intéressantes par retour d'expérience justement pour mettre en place nos propres politiques. Il m'est très difficile de vous donner les raisons pour lesquelles sur ce domaine comme sur le domaine aussi de l'adaptation des territoires au vieillissement où là aussi la province du Québec a été très proactive dans la mise en place d'un protocole d'évaluation participatif avec les populations âgées des territoires et de leur adaptation, avec des dotations aussi pour mettre en place des projets très concrets au-delà du diagnostic. Pourquoi est-ce que la France a été un peu en retard? Je l'ignore, mais en tout cas, ce qui m'anime et ce qui nous anime au sein du réseau, c'est précisément de mettre en dialogue les décideurs publics, les chercheurs, les personnes âgées et leurs représentants pour montrer ce qui se fait ailleurs et pour essayer de tirer profit des retours d'expérience et surtout des évaluations de ces politiques publiques.
Qu'est-ce qu'on a pu constater pendant la période de Covid auprès des personnes âgées ?
La première question qui est posée par les gériatres, notamment, c'est la question de l'accès aux urgences par les personnes âgées. Avec deux entrées, est-ce que les personnes âgées souhaitent aller à l'hôpital, premièrement ? Et deuxièmement, est-ce qu'elles sont acceptées aux services d'urgence ou pas ? Donc ça, c'est le premier point avec la question du tri. Ce sont des questions, nous essayons d'y apporter un certain nombre de réponses et ce sera l'objet du débat effectivement du 7 et éventuellement du 8 également. L'autre point, c'est la question de la discrimination par l'âge, c'est-à-dire assez rapidement en fait, dans un certain nombre de politiques publiques et même dans la population, on a vu revenir des formes de stéréotypes sur les personnes âgées, estimant qu'à 65 ans, les gens étaient à la fois trop fragiles pour ne pas être protégés et peut-être parfois un peu irresponsable et donc devrait être prise en charge par des politiques publiques avec des critères d'âge qui leur interdiraient par exemple l'accès à l'espace public plus que les catégories d'âge plus jeunes de moins de 65 ans. C'est été tous les débats sur la question d'un déconfinement à géométrie variable qui finalement a abouti à un déconfinement général parce que des leaders d'opinion se sont mobilisés parce qu'ils ont été présents pour pointer du doigt cette espèce d'agisme implicite qui était en train de se dessiner dans les politiques publiques. Donc ça, c'est un réflexe, un peu par facilité sans doute, que l'on observe dans un certain nombre de pays et qui consiste en fait à utiliser une variable d'âge de manière assez impropre et peu pertinente.
Vous allez organiser un colloque en 2024 et vous allez en tirer un bilan sur ces sujets. Qu'attendez-vous de ce bilan ?
Actuellement, pour la grande enquête internationale que l'on mène sur les 20 pays, nous en sommes à une phase intermédiaire. C'est-à-dire qu'à Strasbourg, chaque pays va présenter la situation nationale ou provinciale pour le Québec. Et puis, nous allons maintenant passer à un travail d'analyse transversale entre les différents pays autour de la question de l'accès à la santé, autour de la question du droit à la participation et aux décisions, autour de la question du droit à la vie sociale et du droit à la mobilité. Ce qu'on attend, c'est alors d'une part de tirer des leçons pour éviter les mêmes erreurs que par le passé, si toutefois malheureusement une nouvelle période de confinement s'imposait, d'une part, mais aussi peut-être prendre appui sur ce qui a été révélé pendant la période Covid et qui préexistait, c'est-à-dire des problèmes d'agisme, de discrimination par l'âge, pour essayer de réfléchir plus en profondeur, au-delà des périodes extrêmes de la Covid, sur la manière dont on peut mettre en place une société un peu plus inclusive.
L'invité de la rédaction, Pierre Ellenbach.